ces divisions sont maintenues et que les populations étrangères, les populations migrantes et en particulier les réfugiés sont considérées comme des menaces pour la sécurité et comme un fardeau pour l'économie.
Quant à Écrier, comme tant d'autres réfugiés, il a l'impression que sa vie se résume à survivre et non à vivre.
À présent, nos invités pour répondre à quelques questions et partager certaines expériences. Aïssatou Ndiaye Dieng, représentante du HCR au Rwanda. Rémine Sabimana, journaliste à J+ français qui nous rejoint de Doha au Qatar. Et Jean-Aimé Mbia Bando, directeur exécutif de l'International American Relief Society, une organisation humanitaire qui s'occupe essentiellement de la réinsertion psychosociale des réfugiés basée ici aux États-Unis à Atlanta. Survivre et non vivre, des défis liés à l'éducation et à l'emploi, une réalité que vous avez connue, vous, Rémine Sabimana, en tant que réfugié et sans papier. Le camp peut devenir très vite une prison, surtout quand on n'y fait rien, dites-vous, dans votre reportage sur les camps de réfugiés au Cameroun.
Oui, effectivement. C'est bien ça le paradoxe, parce que en même temps, vous êtes dans cet endroit où vous avez cette sorte de protection, mais aussi c'est une prison en quelque sorte physique, puisque c'est très difficile d'aller au-delà. Donc vous êtes coincé un peu dans cette sorte d'enclos. Mais c'est aussi une prison psychologique, parce que très souvent, à force d'y vivre, vous n'arrivez plus à imaginer qu'il y ait une autre vie au-delà de ça, puisque ce n'est que ça que l'on vous donne à voir, ce n'est que ça que vous avez à voir. Et donc ça a une atteinte à votre espoir. Et c'est pour cela que je parle en même temps d'une sorte de prison physique, mais aussi une prison psychologique.
Certains réfugiés se déplacent avec diplôme, expérience professionnelle et compétences acquises dans leur pays d'origine, mais qu'ils ne peuvent pas faire valoir dans le pays d'accueil. Aïssatou, peut-on comprendre avec vous les principaux obstacles à l'accès au travail des personnes déplacées ? On ne vous entend pas bien, Aïssatou ?
Voilà, là vous m'entendez ?
C'est parfait maintenant, allez-y.
Merci beaucoup, je disais, pour la question et bonjour à tout le monde. Effectivement, il est difficile de comprendre cela, mais peut-être que c'est en lien, c'est pour ça que vous voyez aussi le thème qui a été choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale des réfugiés, qui est donc sous le thème de l'espoir loin de chez soi, pendant l'exil, qui marque vraiment la volonté du Haut Commissariat pour les réfugiés de mettre au cœur de notre action la dimension humaine. La dimension humaine parce que ce que nous cherchons, c'est que une fois que le réfugié se retrouve dans un pays d'asile, il est important qu'il se sente inclus pour pouvoir nourrir cet espoir. Il est important de lui montrer la solidarité et il est important aussi de lui donner des perspectives pour ces réfugiés dont le nombre, comme on l'a dit dans votre vidéo, ne cesse de croître plus que jamais. Donc maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment comment mettre en pratique cette inclusion. Parce que l'inclusion des réfugiés dans les pays d'asile, c'est une question complexe, mais pour une meilleure compréhension de cela, il faut d'abord retenir que tous les pays d'asile ont des lois et des obligations internationales qui régissent en fait l'accueil et la protection des réfugiés. Et ces droits incluent l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à un logement décent. Mais il est essentiel de mettre en œuvre aussi ces lois et de veiller à ce que les réfugiés puissent exercer ces droits fondamentaux. Donc l'inclusion vraiment des réfugiés dans les sociétés d'accueil, je crois que c'est un processus important qui implique la mise en place de programmes d'apprentissage de la langue, parce que généralement ils vont venir, mais ils ne pourront pas avoir, ils ne parlent pas des fois la même langue, ou du moins la langue qui est enseignée à l'école, des fois n'est pas du tout la même. Donc il faut mettre des programmes qui permettent cette insertion et qui permettent aussi d'accompagner éventuellement même une recherche d'emploi, parce que les réfugiés qui arrivent viennent aussi avec des expertises, expériences, des capacités qu'ils peuvent tout de suite mettre à profit et pouvoir travailler et se prendre en charge. Alors, voilà les grands défis en général pour l'accès à l'éducation et au travail.
Mettre en place l'inclusion. Jean Aimé, c'est justement ce que vous faites avec votre organisation. Vous vous occupez, entre autres, de la réinsertion professionnelle des réfugiés. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour faciliter cet accès au travail et cette insertion?
Oui, encore bonjour et merci pour l'invitation. Alors, nous, dans ce que nous faisons, nous aidons les réfugiés qui viennent d'arriver de s'intégrer dans la communauté. Et nous sensibilisons aussi la communauté de les accueillir et d'aider tout un chacun d'abord de mettre en exergue ses capacités et d'apprendre la culture locale et s'impliquer dans la société pour bien évoluer. Voilà ce que nous faisons pour le moment.
Rémine Sabiman, je me tourne vers vous. Du fait de votre expérience, vous citez le Cameroun comme l'un des exemples de bonnes pratiques en matière d'intégration des réfugiés. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion?
J'ai pas de retour, donc j'ai pas compris la question du tout.
Je peux reprendre pour vous. Vous citez le Cameroun, où vous avez vécu dans un camp de réfugiés, comme l'un des exemples en matière d'intégration économique des réfugiés. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion? Vous ne me recevez toujours pas? On va travailler, on va voir comment rétablir la connexion avec vous, Rémi. En attendant, Aïssatou, des exemples au Rwanda en termes d'intégration économique des réfugiés?
Oui, tout à fait. Au Rwanda, on a vraiment... c'est un cas exemple, hein, ce qui se passe actuellement. C'est vraiment un pays où il y a des politiques très inclusives. Où, par exemple, il est prévu que les réfugiés, d'abord, ont le droit de travailler. Ce n'est pas toujours le cas pour dans tous les pays. Mais au Rwanda, il existe des politiques très inclusives, bien que même les réfugiés aient accès les réfugiés aient accès à l'emploi au même titre que les nationaux. Il y a quand même des défis qui subsistent en raison du manque d'opportunités, du niveau de connaissances ou même d'informations de la part des employeurs qu'ils peuvent employer des réfugiés. Donc, c'est vraiment la politique d'inclusion dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, où nous travaillons aux côtés du gouvernement pour permettre que cette inclusion et cette intégration se fasse. Donc au Rwanda, c'est d'abord l'identification, leur donner des cartes d'identité qui leur permettent d'avoir accès à de la documentation reconnue dans les banques, qui leur permettent de s'inscrire dans les écoles, qui leur permettent de pouvoir aller dans un centre de santé. Donc ce sont des politiques, mais vraiment inclusives ici, qui permettent de le faire. Mais ça ne va pas sans des défis, parce que c'est dans un contexte économique quand même assez difficile, même pour les Rwandais eux-mêmes. Donc ce n'est pas très évident, mais nous accompagnons le Rwanda et nous espérons pouvoir continuer à les soutenir pour que les réfugiés trouvent leur place dans ce tissu socio-économique.
La connexion a été rétablie avec Rémi Sabimana. Rémi, vous nous recevez maintenant?
Parfaitement, oui.
Je demandais, du fait de votre expérience, vous avez cité le Cameroun comme l'un des exemples de bonnes pratiques en matière d'intégration des réfugiés, notamment. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion?
Pour plusieurs raisons, en fait. Quand on regarde le Cameroun, c'est un pays, il y a cette phrase très célèbre, par exemple, dans l'Est du Cameroun, où on dit les réfugiés, vaut mieux qu'ils viennent mourir ici de faim qu'ils meurent chez eux de balles. Donc ça montre une certaine ouverture, mais aussi une compassion envers les personnes déplacées et les réfugiés. Et puis ensuite, il n'y a pas vraiment cette distinction. Vous n'avez pas l'impression d'être à l'étranger. C'est-à-dire que les Camerounais vous donnent très vite l'impression d'être chez vous. À part le fait, évidemment, de savoir que vous n'êtes pas dans votre pays, vous vous sentez très vite chez vous. Il n'y a personne ou rarement des gens qui vont vous rappeler votre condition ou le fait que vous soyez étranger. Même si, quand même, dans la réalité, très souvent, vous allez effectivement le ressentir. Mais je veux dire, que ce soit à l'école, vous avez les mêmes opportunités que les autres, c'est-à-dire qu'on vous donne accès à l'éducation sous ce qu'on appelle là-bas la tolérance administrative, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de papier et de carte d'identité, on comprend votre situation et on peut vous laisser venir à l'école. Après, les choses se corsent évidemment au fur et à mesure que vous évoluez dans l'éducation et ça se corse encore plus quand il faut trouver du travail, mais j'imagine qu'on en parlera, je ne sais pas si on a déjà abordé la question, mais à la base, au départ, vous avez vraiment des populations qui sont ouvertes, qui sont accueillantes et qui partagent avec vous le peu qu'elles ont et parfois le peu qu'elles n'ont même pas. Et c'est en cela que je pense que c'est pas toujours facile, mais c'est déjà un bon début. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir rejeté, au contraire, il y a des bras qui sont tendus, même si des fois ces bras-là sont vides.
J'imagine bien qu'au-delà des programmes que peut mettre en place un pays d'accueil, les réfugiés eux-mêmes ont aussi leurs barrières qu'ils doivent surmonter. Pardon. Jean-Aimé, est-ce que vous avez eu affaire à ce genre de barrières avec les personnes que vous accompagnez? Comment vous les avez aidées à surmonter cela? Des barrières linguistiques ou culturelles, souvent?
Oui, effectivement, il y a ces problèmes-là. La plupart des réfugiés qui nous arrivent ici, ils ont des barrières, par exemple, sur le plan culturel. D'abord, quand ils ne connaissent pas la langue, ils se posent un problème d'intégration. Et des fois, il y a aussi, pour trouver un travail qualifié. Vous savez que la plupart de nos amis qui viennent des pays, d'autres pays, ils ont soit étudié en français, soit dans d'autres langues, mais qui ne sont pas utilisés ici. Et leur diplôme n'est pas accepté ici. Mais pour trouver le travail, comme tout le monde, il y a du travail, mais un travail qualifié, c'est là où nous sommes en train de travailler. Pour le moment, nous sensibilisons dans nos regroupements de faire accepter que quand quelqu'un qui a même un diplôme, que son diplôme soit évalué et qu'il soit mis dans des conditions pour qu'il puisse trouver un travail vraiment qualifié. Mais le travail, on peut dire ici, le travail, il y en a pour tout le monde, mais il faut savoir quel travail. Et puis, les grands problèmes, c'est que non. Nos amis qui viennent ici, des fois, ils viennent avec beaucoup plusieurs religions en eux. Vous savez, quand peut-être vous êtes magistrat dans un autre pays, si vous venez ici, vous n'allez pas exercer comme magistrat. Vous devez d'abord apprendre la langue. Et il y a aussi la législation ici qui n'est pas la même. Mais des amis qui viennent, quand ils ont plusieurs idées, ils n'arrivent pas à comprendre que non, il y a un changement de vie. Il faut accepter la vie là, apprendre là où on est arrivé. Et essayer de s'intégrer dans la communauté. Des fois, ils ont des problèmes. Et c'est là que nous travaillons aussi dans le domaine de santé mentale pour aider nos amis à comprendre. Et la vie n'est pas toujours pareille, mais quand vous êtes dans un milieu, il faut vous adapter et essayer de vous faire une table rase et commencer la vie à zéro.
Là, vous parlez de la réalité ici aux États-Unis. On peut comprendre que ces réalités diffèrent d'un pays à un autre. Et pour la suite de cette émission, nous allons aborder la question du retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Voyons d'abord ce qu'en pensent nos téléspectateurs sur notre page Facebook. Alphonse Mbouaki de Kinshasa, en RDC, nous dit qu'il y a des efforts de paix qui sont menés pour mettre fin aux conflits et aux guerres afin de permettre aux déplacés de regagner leur milieu naturel. Il y a lieu de noter, nous dit-il, que l'aide internationale au gouvernement interne doit être renforcé pour répondre aux besoins massifs parce que les financements des gouvernants africains font défaut. Charles Bazeman du Burkina Faso nous dit « Triste journée pour des gens qui n'ont pas demandé à quitter leur lieu d'habitation, mais pour des questions inavouées, des bandits armés, ces personnes innocentes sont obligées de tout abandonner. Malheureusement, les dirigeants africains ne sont pas conscients ou font semblant de ne pas voir la chose en luttant efficacement contre les causes, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, la gabegie et surtout le népotisme. » Merci Charles. Il y a Marcelin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire. Lui nous dit que c'est quasiment impossible de planifier le retour des réfugiés dans leur communauté d'origine sans l'aide du Haut Commissariat pour les réfugiés. Très peu de personnes déplacées, selon lui, réintègrent leur emploi parce qu'elles n'ont jamais été la priorité de la plupart de nos dirigeants. Vivement que cette énième célébration contribue à renforcer les actions humanitaires en faveur des réfugiés afin de les humaniser. Vous suivez au Washington Forum sur VOA Afrique et on se retrouve après cette pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Si vous nous rejoignez, Washington Forum sur VOA Afrique, nous revenons sur la journée mondiale des réfugiés en mettant l'accent sur l'accès au travail et les mécanismes pour faciliter le retour de ces personnes dans leur pays d'origine. Avec nos invités, Aissatou Ndiaye Dieng, représentante du HCR au Rwanda, Rémine Sabiman, journaliste à AJ+ français qui nous rejoint de Doha, et Jean-Aimé Mbiabondo, directeur exécutif de l'International American Relief Society ici aux États-Unis. Vous avez suivi les commentaires de nos téléspectateurs sur Facebook. Le retour des réfugiés dépend notamment de la situation sécuritaire. Aissatou, je m'adresse à vous. La situation sécuritaire, mais également la situation politique et de plein d'autres facteurs. Mais certains réfugiés réussissent quand même à rentrer chez eux et de façon durable. De qui doit venir cette décision au prime abord? Des personnes déplacées, des pays d'accueil ou du pays de départ?
Tout d'abord, le retour, il est volontaire. Il est volontaire, donc il vient de la part donc, de la personne qui est donc le réfugié. Donc c'est une décision personnelle et volontaire. Et vraiment faciliter le retour des réfugiés chez eux est l'une des trois solutions aux crises des réfugiés sur lesquelles travaille l'HCR, parallèlement à d'autres comme la réinstallation et l'intégration. Mais pour vraiment beaucoup de millions de personnes qui fuient, le retour au pays met fin à une période d'exil qui suit une période traumatisante. Et cela peut se passer des fois des mois après, des années ou même des décennies après leur départ. Et malheureusement, de nos jours, les opportunités de retour ne sont pas vraiment nombreuses dans le monde. Je pense que le retour des réfugiés en Afrique particulièrement, ce retour est entravé par différents obstacles, à commencer par l'instabilité politique, les conflits armés, les guerres civiles, les tensions politiques dans leur pays d'origine. Et ça rend difficile le retour. L'absence de sécurité, de stabilité et aussi qui rend risqué le retour chez eux. Il y a aussi des conditions très précaires, conditions économiques très, très précaires, avec un chômage très élevé, une pauvreté accrue et aussi des manques de disponibilité, de possibilités d'emploi. Quand ils vont retourner, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Les biens ont été perdus, soit occupés par d'autres. Donc voilà les éléments qui vraiment sont des éléments déterminants qui permettent à un réfugié de décider je vais rentrer ou je ne vais pas rentrer. Mais la décision leur importe d'abord eux. Elle est personnelle et elle est volontaire.
Donc il y a d'autres défis qui se posent aux personnes déplacées qui décident de retourner chez elles, notamment l'intégration et aussi les moyens de subsistance. Rémi, est-ce une question qui s'est posée à vous au moment où vous viviez dans ce camp de réfugiés, ou est-ce que vos parents avaient envisagé un retour dans vos pays d'origine?
Oui, absolument. Ce sont des questions que l'on se pose à chaque fois quand on est dans une situation ayant un statut de réfugié. Mais après, je pense qu'il faut distinguer, à un moment donné, il y a deux types de réfugiés. Soit ceux qui ont réussi contre vents et marées à s'insérer dans la société des pays d'accueil et qui, à un moment, vont jauger et vont se dire « est-ce que ça vaut mieux de rentrer dans mon pays d'origine ou de rester ici ?» Donc, à ce moment, une fois encore, ça revient à la décision de chacun d'apprécier et de décider. Et puis, il y a une autre catégorie des réfugiés qui, malgré tout, n'ont pas réussi à s'insérer, sont toujours dans une misère qui ne dit pas son nom, et ils se disent, est-ce que je dois rester ici ou alors je dois tenter de repartir dans mon pays d'origine? Et là se pose alors une autre question, c'est si je décide de repartir, même s'il y a la paix pour ceux qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, est-ce qu'il y a autre chose, c'est-à-dire à quoi puis-je retourner? Parce qu'il y a aussi le fait que certes, il faut savoir qu'il y a la donnée de les raisons pour lesquelles je suis parti de mon pays, est-ce qu'elles sont toujours là ou est-ce que elles ne sont plus là. Et une fois qu'on a répondu à cette question, c'est maintenant si je repars, à quoi est-ce que je repars? Pour trouver quoi? Et là, une fois de plus, c'est très compliqué. Dans mon cas personnel, je pense qu'on avait réussi à aller à l'école, on avait des diplômes et on s'est battu pour trouver un travail à l'extérieur. Et puis, même s'il y a la paix, par exemple, dans mon pays d'origine, au Rwanda, je me dis qu'il est plus préférable, ma situation actuelle, elle est préférable, mais ça, c'est sur le plan, par exemple, professionnel, que de repartir où je ne suis pas sûr de retrouver les mêmes conditions de travail.
Vous évoquez votre cas, vous avez eu à faire face à l'apatridie. Comment vous avez réussi à surmonter cette étape?
Je parlerai de la solidarité beaucoup plus des pays où j'ai été, où mes frères aussi ont été. J'ai parlé du Cameroun tout à l'heure et je parlais de ce qu'ils appellent là-bas la tolérance administrative, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes une sorte d'étudiant fantôme, mais on comprend votre situation et on se dit, vous allez aller à l'école, vous allez avoir ce droit-là, mais une fois que vous avez régularisé votre situation, vous reviendrez avec votre pièce d'identité. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai pu évoluer comme ça, dans cette sorte, sous couvert de la tolérance administrative, mais lorsque vous finissez, par exemple, l'école secondaire ou le lycée, vous devez aller à l'université, ça devient plus compliqué. On vous dit, mais ça fait très longtemps que vous êtes soi-disant un demandeur d'asile, que voilà quoi, il nous faut un passeport, il nous faut une carte d'identité. Et là, ça se corse. Et je le sais aussi parce que mes petits frères ont eu le même problème. Et j'ai été obligé à ce moment de me tourner vers mon pays d'origine et de dire, bon sang, je ne vais pas quand même continuer à être un fantôme alors que j'ai un pays d'origine. Et là aussi, il faut remercier les autorités rwandaises qui, à ce moment-là, sont très ouvertes et ont créé des conditions pour que ceux qui désirent revenir puissent revenir chercher des cartes d'identité et des passeports.
Je vous remercie, Rémi Jevois, Madame Aïssatou qui hoche la tête, aussi que Jean-Aimé. Jean-Aimé, est-ce que le retour, c'est une question qui se pose au sein d'un groupe que vous accompagnez? Et si oui, quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter cela?
En tout cas, à vrai dire, ici, on n'a jamais constaté les gens qui veulent retourner dans leur pays. Au contraire, quand les gens viennent ici, ils préfèrent rester ici pour toujours. Et les conditions ici, vous savez, par exemple, ici aux États-Unis, quand après une année, vous avez votre green card, après 5 ans, vous avez la possibilité d'avoir la nationalité, et les gens trouvent que non, mieux vaut rester ici que retourner au pays. Du moment où le pays, votre pays d'origine, il n'y a pas encore la sécurité, et où les conditions pour lesquelles qui ont fait que vous quittez votre pays ne sont pas résolues, les gens n'ont jamais envisagé de rentrer chez eux.
Madame Aïssatou, on parle très très peu des communautés d'accueil qui sont souvent délaissées pour compte, à mon avis, des aides humanitaires qui vont à l'endroit des réfugiés. Comment faire pour soutenir ces communautés?
Oui, les communautés d'accueil effectivement sont très importantes dans cette affaire, mais j'aurais voulu juste revenir sur l'apatridie. Allez-y. Que vous avez mentionné. Vous savez que c'est partie donc des mandats du HCR de lutter contre l'apatridie, et donc il est très important, comme l'a dit Monsieur Rémy, que les États s'impliquent. Et je suis très heureuse d'entendre qu'il a pu avoir ses papiers grâce à son gouvernement, enfin en tout cas à son pays d'origine, et que c'est quelque chose qu'on peut lutter que quand on va à l'origine même, c'est-à-dire il ne faut pas que quelqu'un se retrouve dans une situation d'apatridie. Il faut absolument éviter ce risque de tomber là-dedans, parce que c'est pour ça que les États doivent aller, il faut aller sur les causes profondes qui peuvent générer l'apatridie. Et là, je suis très heureuse que l'État du Rwanda facilite pour tout Rwandais donc qui a besoin de ce papier de pouvoir lui donner cette possibilité. Mais la lutte vraiment c'est au niveau donc des États qu'il faut travailler pour pouvoir avoir ces documents. Pour ce qui concerne les communautés d'accueil, oui, la politique du HCR, c'est que nous essayons, quand on parle d'inclusion, que nous parlons d'inclusion dans les sociétés, les communautés d'accueil. Donc, il est important que toute l'assistance que nous apportons, nous les incluons. Tout à l'heure, M. Rémy parlait de la solidarité, de l'accueil, de l'hospitalité, la générosité, parce que quand ces communautés d'accueil reçoivent ces personnes qui traversent les frontières et arrivent chez eux, elles sont les seules, ces communautés d'accueil, à les recevoir, à partager les ressources. Donc, nous, ce que nous faisons dans notre assistance, nous les incluons dans tous les programmes d'assistance, ils sont une part intégrante pour pouvoir avoir accès les infrastructures que nous mettons, nous faisons de sorte à ce qu'elles soient construites.
Je vous remercie.
Aux alentours de ces réfugiés.
Je vous remercie, en fait, Madame Aïssetto, et la fin de ce Washington Forum. Je vous remercie à vous, nos invités, et vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site web voafrique.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci à toute l'équipe de production. Je suis Alexandrine Franc-Lognon et à très bientôt.